Radio Campus Paris.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, après une pause un peu plus longue que prévue pour Noël, c'est le retour de la relève. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année en écoutant La Relève. Nous sommes donc de retour toujours avec des jeunes talents à découvrir. Au programme aujourd'hui, malheureusement, des talents maltraités et bien souvent ignorés. Mon invité est docteur en neurobiologie. Bonsoir Adèle Comte.
Bonsoir.
Comte, pardon. Vous êtes autrice de « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Vous êtes même donc docteur en neurobiologie, comme je viens de le dire. Pour commencer, je voulais vous demander comment allez-vous ?
Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Je suis assez heureuse de voir l'ampleur que le mouvement est en train de prendre. Un peu choquée aussi des messages que je reçois d'autres personnes qui m'envoient des témoignages qu'ils n'ont pas pu m'envoyer avant et je vois la réalité qui se passe encore actuellement. Mais de façon générale, ça va bien.
Alors votre livre s'appelle « Comment, je le redis, l'université broie les jeunes chercheurs ». Il a apparu aux éditions Autrement. Il raconte la difficulté des situations de harcèlement, de précarité rencontrées par ces jeunes chercheurs. Juste avant de commencer, pour les gens qui nous écoutent, si certains ont envie un jour de faire une thèse, est-ce que vous leur conseillerez malgré tout de faire de la recherche un jour ?
Oui, moi je pense que la recherche c'est un des plus beaux métiers du monde. En revanche, il faut clairement savoir à l'avance dans quoi on peut se mettre, dans quoi on peut entrer.
Tomber,
ouais. Ça peut se passer très bien, et il y a plusieurs exemples, plein d'exemples qui montrent que ça peut se passer très bien, mais il faut avoir conscience que ça peut mal se passer, ça peut très mal se passer. Et j'espère en tout cas que ce livre peut aussi montrer aux jeunes chercheurs, aux futurs, peut-être aux masterants, aux licences. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais si jamais ça se passe comme ça, mais regardez, peut-être que ça vous donnera les armes en fait, pour arriver à mieux gérer et pour savoir où trouver de l'aide.
Ne serait-ce que pour identifier les situations qui ne sont pas normales, parce que comme souvent dans la vie, on vit les choses une seule fois et la première fois, on ne sait pas forcément qu'elles sont pas normales. Votre livre n'est pas autobiographique, il se base sur une enquête que vous avez menée auprès de 2000 jeunes chercheurs, 3 témoignages que vous avez choisi de rencontrer dans la durée. Comment vous êtes arrivé à cette forme-là ?
C'est une bonne question. Moi, je voulais parler de l'expérience en doctorat. Je voulais me focaliser sur les personnes pour qui ça s'est plutôt mal passé, voire très mal passé. Mais c'était assez compliqué parce que quand on donne uniquement quelques témoignages, on peut avoir l'impression que ce sont des cas ultra isolés qui ne représentent pas la majorité ou qui ne représentent pas quelque chose de généralisé. Et en même temps, si on ne donne que des chiffres, ben on a du mal à percevoir la réalité, les pensées, la psychologie qu'il y a derrière le harcèlement. Quand on dit, bon, ben, très bien, il y a 33% de harcèlement, il y a 33% de dépression, de burn-out durant le doctorat, c'est grave. On a conscience que c'est 1 sur 3, donc on a conscience que c'est grave, mais on ne sait pas forcément quelle est l'histoire derrière ça, quel est l'impact psychologique et comment surtout on part d'un point A qui est relativement positif, et comment on fait, quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe pour arriver progressivement à ces situations-là. Et c'est pour ça que, finalement, je me suis dit, il faut que j'allie les chiffres et les témoignages, mais de façon immersive, pour que les personnes qui lisent saisissent à quel point des situations d'abus peuvent impacter et peuvent traumatiser les personnes, et comment aussi il est important d'avoir des personnes ressources pour arriver à survivre à tout ça et aller de l'avant.
Alors, ils sont 3, il y a Laurine, Baptiste et Sarah. Ils ont été difficiles à trouver ? Vous en aviez d'autres ? Vous les avez choisis ? Vous avez fait un casting, pardon mais...
Non, alors déjà non, ils n'ont pas du tout été difficiles à trouver. Et ça m'a d'ailleurs assez surpris. Parce que, en fait, ça montre aussi que quand on veut un peu s'intéresser à ce sujet-là, eh bien, on trouve. Donc, si on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de la part des personnes qui sont censées s'intéresser à ces problématiques-là. La part, peut-être, des directions, en tout cas, non, c'est facile à trouver. Ensuite, j'ai eu plusieurs autres interviews. Et d'ailleurs, je les mets aussi dans le livre. Ce sont des témoignages qui sont plus courts, qui sont plutôt de une à deux pages, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus.
C'est les trois principaux.
Trois principaux. J'ai dû faire des choix. C'est quasiment les personnes que j'ai rencontrées au début, pour être très honnête. Ensuite, j'ai pas fait un casting, c'est-à-dire que j'ai pas cherché. Il me faut absolument une femme qui a eu une agression sexuelle. Il me faut absolument une personne qui a une situation de handicap. Ces situations sont venues naturellement à moi.
Et donc, vous avez travaillé comment avec eux alors, une fois que vous avez choisi?
Alors, par exemple, si je prends l'exemple de Laurine, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle avait laissé un commentaire qui semblait indiquer qu'elle avait vécu des situations anormales, graves. Et donc, je l'ai contactée, tout simplement, en lui disant « Salut, bon, je me permets de te contacter, je fais ça ». De fil en aiguille, elle a accepté qu'on se rencontre et j'ai pris un billet de train, je suis allée la rencontrer. Et ça, c'est une interview qui a duré à peu près presque 4 heures. Que sont des interviews que j'ai enregistrées. Et durant ces interviews-là, je demandais qu'elle me décrive, voilà, chacun, c'est pareil pour chacun, mais qu'ils me décrivent les situations qu'elles ont vécues. Mais aussi, je voulais aller plus loin. Au-delà des simples faits, je voulais comprendre ce qui se passait dans leur esprit à ce moment-là. Et aussi, comment elles interprétaient ces situations-là. C'était pour moi très important pour avoir... Parce qu'il y a la notion de témoignage, mais il y a la notion de personne, d'humain. Et je ne voulais pas juste avoir des témoignages assez lisses, je voulais montrer les véritables êtres humains qu'il y a derrière ces témoignages. Donc certes, c'est écrit de façon narrative, mais ce ne sont pas des fictions, ce sont des vraies histoires écrites comme un roman. En fait.
Mais chaque histoire dure entre 80-100 pages, ce n'est pas en 4 heures qu'on fait ça. Vous avez refait après des interviews, vous les avez réinterviewées plusieurs fois?
Non, la plupart. Alors, ce que j'ai fait, c'est la plupart de la matière que j'ai utilisée pour écrire, c'est vraiment dans ces 4 heures-là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai recontactés parfois 6 mois après, jusqu'à presque un an, pour savoir ce qu'ils étaient devenus et pour savoir si la fin de mes histoires changeait, si la fin, en l'occurrence, de leurs histoires avait changé, s'ils étaient heureux maintenant. S'ils avaient de l'espoir, voilà, pour savoir ce qui se passait. Mais si, en 4 heures, ça a été assez intense. Et parfois, ceci dit, ils pouvaient m'envoyer des petits détails supplémentaires, voire des documents. Par exemple, Laurine m'a envoyé la preuve des emails, des échanges emails qu'elle avait eus. Et c'est pour ça que j'ai pu retranscrire de façon très précise dans le livre les échanges emails qu'elle a pu avoir à la direction.
À chaque fois, vous commencez avant la thèse. C'est un choix, ça. Alors, dans le cas de la dernière... Sarah, elle a 8 ans, elle rêve de devenir chercheuse. Il y en a d'autres, ils sont en master, master 1, master 2, et deux autres. C'était quoi? C'était pour montrer toute la profondeur, finalement, du rêve qui pouvait s'effondrer parfois?
Oui, parce que souvent, en tout cas, pas tout le temps, mais très souvent, le rêve de la recherche commence avant d'avoir l'opportunité de la faire. C'est souvent, ça peut être un rêve d'enfant, mais pas toujours. Bon, par exemple, ce n'était pas un rêve d'enfant, forcément, pour moi, de faire la recherche. Mais pour certains, typiquement, oui, Sarah, c'était un rêve d'enfant. C'était une jeune femme qui s'est battue, qui était excellente, qui était surdouée, qui est surdouée, et qui a toujours voulu faire ses études dans cet objectif-là pour obtenir ce métier, pour avoir ce métier-là. Et ça montre aussi finalement, la profondeur de la motivation, mais la profondeur aussi de la déception et surtout le gâchis en fait, que ça représente d'avoir des jeunes tellement motivés depuis si longtemps qui finalement ont un potentiel complètement gâché.
Alors avant d'aller un peu plus loin, je vous emmène au cinéma un petit moment. Petite minute.
On est expert. Bonjour.
Bon, je vais pas tarder, moi.
La surdouée de la famille.
Ah non, Odile, arrête.
Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille.
Je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non?
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28? Je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans l'ont mis le lac de Paladru.
Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça.
Non.
Au lac de
Paladru.
Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors?
Pour faire parler les cons.
Pas comme lui.
Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein.
C'est bien ce que j'avais compris.
Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons.
Je fais ce que je peux. Bon.
Tu veux encore du café ?
Non, non, je vais y aller, il faut vraiment que j'y aille.
En fait, je t'ai pas demandé, tu l'as trouvé cet appartement ?
Non, je cherche, mais c'est pas facile. Ça, il faut que ça me plaise, il faut que ça plaise à ma femme.
Ouais.
Je lui décris les appartements au téléphone, enfin bon, c'est pas facile, mais je cherche. Je t'appelle.
Il m'énerve, lui.
J'ai vu, oui.
Je suis désolée, hein, mais je peux pas le supporter. Mais
qu'est-ce qu'il t'a fait, enfin ?
Rien, il m'a rien fait, mais je peux pas le supporter, c'est tout. Il fait toujours son petit malin, là, mine de rien.
Mais non, c'est toi qui as été agressive avec lui alors qu'il te posait une question tout à fait banale. Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin ? Je savais plus où me mettre, moi.
À chaque fois, c'est pareil.
Voilà, c'était un extrait d'On connaît la chanson, un film d'Alain René qui date de 1997. Ça commence à dater. À l'époque, il n'y avait même pas Facebook, avec Sabine Azéma dans l'ordre, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri. On est très loin de votre sujet, mais il y a une chose que je trouve qui est bien montrée dans ce film, dans cette comédie, c'est qu'elle montre bien la solitude du chercheur Agnès Jaoui, qui passe, tout le monde passe son temps à lui demander son sujet de thèse et tout le monde a l'air désespéré pour elle. Est-ce que toutes les difficultés que vous avez, vous, rencontrées, chez les personnes que vous avez rencontrées, elles ne sont pas aussi un peu liées à ça, au fait qu'on est très seul quand on est un chercheur ?
Il peut y avoir la solitude, mais ça dépend, il y a plusieurs formes de solitude. La solitude professionnelle, ce n'est pas forcément le cas. Enfin, quand on est dans un laboratoire, surtout en sciences dures, généralement, on a des collègues, on peut partager certaines choses. En sciences humaines, moi, je n'ai pas fait de thèse en sciences humaines, mais de ce que m'ont rapporté les personnes que j'ai interviewées, ça va vraiment dépendre de si ou non on est dans son laboratoire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes en sciences humaines qui n'ont pas accès à leur laboratoire, ils travaillent de chez eux ou à la bibliothèque. Et là, la solitude est malheureusement hyper importante. Après, la solitude vis-à-vis de la famille, ça c'est autre chose.
Baptiste est très seul dans les trois, vos trois témoins. Il a beau avoir un copain et des amis, il ne les voit plus, il s'enferme complètement, il n'a plus de vie, il travaille tout le temps.
Mais c'est justement, c'est la solitude dans les faits, puis la solitude perçue. C'est aussi ça, c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'on peut être énormément entouré, mais donc je pense qu'on connaît à peu près tous cette sensation, ce sentiment de... Je suis entourée, pourtant je me sens terriblement seule parce que c'est pas la solitude, c'est être incompris. Le sentiment d'être... La solitude, c'est pas la même chose que de se sentir incompris. Et ici, dans la famille, elle est pas seule dans les faits, mais elle est incomprise et donc on se sent seule.
Vous qui connaissiez le milieu de l'intérieur dans ces trois témoignages, alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? C'est pas le plus au sens... qu'est-ce qui vous a paru le plus inattendu ?
Je pense que...
Où tout vous a finalement semblé...
Non, mais bien sûr, moi, à chaque fois, après les entretiens, je vais pas classer de toute façon, c'est impossible. Moi, clairement, quand j'ai fait les interviews, je mettais à peu près 2 jours à m'en remettre. parce que c'était pas juste de la description, c'est parce que je cherchais à comprendre l'impact psychologique des personnes sur leur vie. Je pense quand même que ce qui m'a choquée, c'est l'inaction de la direction à chaque fois, en tout cas à travers ces témoignages-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont averti la direction ou alors qui ont eu des personnes haut placées qui ont été témoins de ces abus-là et qui n'ont rien fait.
Ouais, je vais vous citer parce que c'est un point que j'avais noté. Il y a un moment, je crois que c'est justement le témoignage de Baptiste, je crois que je ne dis pas de bêtises, qui dit « J'ai surtout envie de pleurer au point de me désagréger. Tout le monde a entendu, certains ont même vu ce qui se passait et personne n'est intervenu. Ils étaient tous là et personne n'a osé agir. Pas même le directeur de l'unité, pourtant à quelques mètres de moi. Un soupir de tristesse s'échappe soudain de mes lèvres tremblantes. Ils étaient là, ils m'ont laissé agoniser. » C'est terrible.
Oui. Oui.
Ça, c'est le système... De peur, chacun a peur pour sa carrière.
C'est en tout cas, ce serait très intéressant de faire une étude à vraiment approfondie là-dessus. Moi, ce que je perçois de ces entretiens-là et ce que j'écris dans mon livre, c'est qu'il semble en tout cas y avoir un manque de courage malheureux de personnes qui, peut-être, ne sont pas forcément malveillantes, mais qui n'arrivent pas à avoir le courage de s'opposer ou de vraiment prendre parti pour les chercheurs qui vivent des abus. Il peut y avoir plusieurs raisons, soit parce que, certes, y a une certaine peur vis-à-vis si c'est un grand pont ou si c'est un directeur. Il peut y avoir aussi, ils ont déjà beaucoup de pression par ailleurs, donc certains se disent, je ne vais pas en plus m'intéresser à ça, m'impliquer là-dedans. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui font que les personnes n'interviennent pas. Mais quelles que soient les raisons, ça reste choquant. Et l'idée aussi ici de ce livre-là, c'est de montrer aux personnes qui ont pu être témoins, qui n'ont pour diverses raisons n'ont pas osé intervenir, regardez à quel point on a besoin de vous. Et certes, c'est difficile, ça sera sûrement difficile pour vous, mais s'il vous plaît, maintenant, il faut que vous aussi vous fassiez quelque chose.
Vos trois témoins sont pourtant des gens très combatifs, c'est des warriors. Hein. On le disait avant de commencer l'émission, ils ne se laissent pas faire, ils répondent à leur directeur. Leur courage m'a frappé parce qu'ils envoient des demandes, tu as dit ça, pourquoi tu m'as dit ça. Eux, ils n'ont pas peur pour le coup.
Non, et c'est d'ailleurs moi ce qui m'a intéressée de la part de ces personnes-là, c'est que j'ai des personnes qui m'ont déjà dit « oui, mais quand même, le harcèlement moral, moi jamais je me laisserai faire comme ça, j'ai un caractère assez fort. » Et ces personnes, je leur réponds, je comprends que tu penses ça, mais moi, les personnes que j'ai interviewées avaient aussi un caractère fort, ne se laissent pas aller, tout en étant diplomates. Et malgré tout, il y a, quand on est dans un certain environnement, avec certaines pressions, malgré son caractère, on peut se laisser happer. Et malheureusement, parfois, la direction est trop forte. Parfois, les conséquences d'une rébellion, on peut se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se rebeller si c'est pour mettre en danger ma carrière ? C'est un contexte, c'est pas si facile de se défaire de ça.
On va écouter un peu de musique.
time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Voilà, c'était Muse, Knights of... Alors, avec mon super accent, ça va être compliqué. Knights of Cydonia. C'est vous qui avez choisi ce titre, Adèle Combe, pourquoi ?
Ah, je crois que... je crois que c'était Muse.
J'ai dit quoi ? Pardon, j'étais perdu, j'étais ailleurs. Je sais pas ce que j'ai dit.
Je l'ai choisi parce que, pour plusieurs raisons, déjà dans mon livre, à un moment, je parle d'un moment où j'attends devant les grilles du Stade de France et que je rencontre des personnes, j'ai fait le pied de grue pendant 12 heures quand même, pour avoir une place dans la fosse, et c'était pour un de leurs concerts. Et en fait, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient fait un doctorat. Une personne qui avait fait un doctorat, qui s'était très bien passé, et une personne qui ne connaissait pas du tout le monde académique, mais qui avait été harcelée dans son travail, et finalement, qui était même peut-être plus intéressée que la jeune femme. Et puis aussi, parce que les paroles, en fait, ça motive à se battre pour ses droits, tout simplement.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Bon, j'espère que je n'ai pas encore une fois annoncé Mylène Farmer au lieu de Muse, je ne me suis pas trompé.
J'aime bien Mylène, Mylène je respecte.
Je suis toujours avec Adèle Combe qui publie chez Autrement, comment l'université broie les jeunes chercheurs. On parlait tout à l'heure du silence, de la solitude. Il y a aussi quand même au cœur de Steve cette croyance que, on dit, moi j'ai beaucoup pensé à ce qu'on dit aujourd'hui sur le nouveau féminisme, on pourrait penser à cette phrase, faut souffrir pour être belle. Là, il y a quand même cette idée, il y a cette ponte universitaire qui dit « En thèse, si tu ne souffres pas, c'est que tu n'es pas une bonne thèse. » Il y en a un autre, moi ces phrases m'ont fait froid dans le dos, qui dit à un moment, il a publiquement déclaré, dites-vous, « Un doctorant qui ne déprime pas, ce n'est pas un bon doctorant. » Mais comment on lutte contre des idées aussi stupides, hein ?
Mais c'est en parlant, en fait, c'est aussi en démontrant que ce sont des idées qui sont de notre temps. Et ça, en fait, et quand cette personne-là déclare ça, sans que personne trouve à redire, en tout cas pendant le congrès, le colloque, on se dit qu'il y a un problème. Parce que si on est prêt à le déclarer publiquement, c'est qu'on y croit vraiment. Et c'est sûr, et qu'on considère vraiment que pour mériter sa place, il faut souffrir. Pas juste, voilà, c'est pas juste avoir dépassé une difficulté intellectuelle, parfois, qui peut être très prenant. Il faut souffrir, quoi.
C'est quelque chose d'ailleurs qui revient souvent dans vos témoignages, c'est que les jeunes qui vous ont parlé disent c'est pas parce que c'était comme ça avant qu'il faut continuer, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est le grand argument qui a avancé parfois.
Oui, et puis Baptiste le dit très bien à un moment, il le dit de façon assez crue d'ailleurs à son directeur de thèse, mais il faut aussi remettre en question des choses qu'on a toujours acceptées et qui en fait ne sont pas acceptables. Ce n'est pas parce que ça s'est toujours fait qu'il faut continuer de le faire, tout simplement.
Alors, ce que vous montrez aussi, c'est que derrière ce phénomène, il y a parce que vous esquissez aussi les solutions, et un des problèmes qui font que beaucoup d'étudiants acceptent, c'est la précarité financière des chercheurs. Moi, j'ai découvert la situation des chercheurs étrangers qui n'ont des bourses que de 900 euros, contrairement aux chercheurs français. J'ignorais complètement ça.
Alors, pas tous, mais en tout cas, il existe certaines bourses qui ne sont pas les mêmes. Certains chercheurs et certains chercheurs étrangers vont avoir des bourses qui ne sont même pas de 1 000 euros. Et puis ça semble normal. Donc non, ça l'est pas, c'est pas du tout normal. Ensuite, la précarité financière.
Est-ce que vous montrez par exemple que les étudiants en précarité financière ou qui viennent de catégories moins favorisées sont plutôt plus harcelés parce qu'ils ont peut-être moins de moyens de partir aussi.
Alors là, ça va être autre chose. Il y a tellement de choses en fait, mais c'est super, on pourrait en parler pendant 4 heures, 5 heures, enfin vraiment. Mais la précarité financière, déjà, il y a plusieurs choses dans cette précarité financière. Il y a le fait de ne déjà pas du tout être financé, c'est une chose, et c'est quelque chose qui touche.
C'est ce que vous
en
disiez,
grande majorité, les doctorants en sciences humaines.
C'est ceux qui travaillent chez eux avec leur ordinateur personnel.
Ça peut. Mais c'est généralement tout simplement des personnes qui font un doctorat, mais qui ne sont pas payées pour le faire et qui donc doivent donner certains cours, bosser au McDo, bosser dans un centre commercial. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a une précarité financière là. Ensuite, on a quand même la chance, beaucoup de doctorants ont la chance, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une chance parce que ça devrait être normal, mais d'avoir un contrat de travail avec une rémunération qui n'est pas très élevée, qui existe. Mais il faut aussi remettre en question, est-ce que c'est normal que toucher à peine un petit peu plus du SMIC, ce soit accepté.
Alors le problème de cela, c'est que souvent on les prend pour faire des tâches de technicien dans le labo où ils sont.
Ça,
c'est ce que vous racontez, notamment dans vos témoignages.
En tout cas, dans les témoignages, certains disaient... moi, je suis venue pour grandir intellectuellement et pour avoir un challenge intellectuel. Et puis pour apprendre, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas la prétention à tout savoir. Et au final, certains se retrouvent à devoir être les petites mains du laboratoire.
Vous proposez aussi que les encadrants, donc les directeurs de thèse, soient formés à la gestion de projet, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On devient directeur de thèse sans avoir appris à encadrer un étudiant.
Alors, pour obtenir l'habilitation à diriger les recherches, c'est un petit peu comme une deuxième soutenance, d'être un peu plus ardu parce qu'on reprend tous les travaux qu'on a fait durant sa carrière.
Il y a la thèse et les articles.
Voilà. Mais à aucun moment, il y a une obligation, il y a un examen qui vérifie qu'on a les compétences en gestion de projet, mais même surtout en relations humaines. Parce que il peut y avoir d'excellents scientifiques, d'excellents chercheurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les compétences pour gérer des personnes. Et donc là, ce que je dis, c'est que certains l'acquièrent durant leur cursus, parce qu'il faut quand même savoir que le doctorat, c'est quand même gérer un projet de recherche ardu, parfois plus, ardu. Et donc, par la force des choses, on doit apprendre à gérer un projet de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de gérer une équipe, ni des personnes. Ça s'apprend.
Et comment expliquez-vous, je vois l'heure qui tourne, alors qu'on nous dit que la recherche est une priorité, on laisse faire ces mauvais traitements, in fine, c'est un tel gâchis d'argent public, et on n'en a pas conscience, ou c'est toujours cette histoire qu'on croit que c'est normal ?
C'est un gâchis
d'argent, quand, tous ces gens
qui finissent par partir.
Tout le malheur dans lequel ils sont, le mal-être, la souffrance.
Clairement, il y a de l'argent public qui est mis dans la recherche. Il n'y en a clairement pas assez, il y en a. Et quand on se dit qu'on a besoin de faire, qu'on se bat à ce point pour avoir des financements, pour qu'au final, il y ait des jeunes qui, à cause de leurs conditions de travail, sont dégoûtés et finissent par partir, oui, il y a clairement un problème. Et ce que je dis dans ce livre-là aussi, c'est que il faut augmenter les financements, c'est vrai, mais en plus, il faut se débrouiller pour que tout l'argent qu'on a mis jusque-là, quand même, c'est des personnes qu'on a financées jusqu'au bac plus 8, qu'on ne gâche pas leur potentiel là. Parce que là, c'est extrêmement pragmatique, c'est vrai qu'on parle uniquement de financement, mais au-delà du financement, il y a tout simplement des personnes derrière ça. Il y a des personnes.
Depuis la publication, vous avez des réactions ? Vous pensez que ça peut bouger ?
Alors oui, moi depuis, honnêtement, c'est sorti le livre est sorti le 5 en librairie. D'habitude, je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux parce que moi, l'humain, encore une fois, je le mets au centre de tout mon travail, même si je suis docteur en sciences dures. Et en fait, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vais le faire. Je le fais. Mais je reçois des personnes qui me disent « J'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression d'avoir un miroir de ma propre vie. Donc, merci. » Et plein de personnes m'écrivent ça. D'autres personnes qui m'écrivent « Je suis actuellement dans ce problème. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais mettre votre mail en copie des messages que j'envoie à la direction pour que ça puisse leur mettre la pression ?» Je dis « Je suis désolée, je ne suis pas avocate, c'est compliqué. » Donc, j'essaie de les renvoyer vers les associations locales, vers la médecine du travail des étudiants, vers peut-être des syndicats. Mais en tout cas, oui, il y a clairement un mouvement qui se passe. Il y a des gens qui commencent à se sentir libérés. Ils se disent que je peux me libérer, je peux me sentir un peu plus émancipée. Et si j'ai pu mettre en mouvement cette libération, j'en suis ravie.
On va déborder d'une toute petite minute, mais je suis désolé. J'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts en sortant. Les directeurs de thèse dont vous parlez sont toujours en poste ou pas dans ce livre ?
Oui, les directeurs de thèse, les directeurs d'université et de recherche sont toujours en poste actuellement.
Et ça vous inspire quoi ? Parce que moi, ça me fait froid dans le dos quand vous me dites ça.
Moi, ça m'inspire qu'en fait, maintenant, certains se reconnaîtront probablement et qu'ils peuvent commencer à avoir peur. Parce que là, il y a un mouvement qui se passe. Et en fait,
une sorte de MeToo-thèse, enfin, c'est pas très joli, mais...
MeToo-recherche, bien sûr. C'est parce que maintenant, on a énormément de jeunes chercheurs hyper compétents qui ont une vraie éthique eh ben, s'il faut changer les choses, eh ben, je pense que les chercheurs toxiques, on peut leur dire au revoir et merci à la nouvelle génération de chercheurs.
Merci à vous, Adèle Combe, d'avoir participé en tout cas à cette prise de conscience. Et puis au passage, j'éditorialise rarement, mais juste un petit mot comme ça. Quand on fait des colloques sur le wokisme, on peut peut-être aussi s'intéresser à ce qui se passe dans son université et avec certains de ses professeurs. Voilà, c'était mon mot de la fin. C'était La Relève présentée, produite par Christophe aujourd'hui, réalisation assurée par Geoffrey. À 19h, vous retrouvez Faustine pour la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci, au revoir.